Sébastien Paour, bonsoir.
Bonsoir à tous. Un peu plus de 120 000 euros en deux jours pour le boxeur de gendarmes. La cagnotte en ligne pour Christophe Détinger est fermée. Face à la polémique, d'autres sont lancés pour les forces de l'ordre. Carlos Ghosn peut être en prison pour encore 6 mois jusqu'à son procès. Le toujours PDG de Renault se dit innocent. On verra s'il peut rester à la tête du constructeur français. Au sommaire également ce soir, le discours solennel de Trump tout à l'heure à la Maison Blanche pour sortir du shutdown. Le hacker allemand de 20 ans qui pirate 1 millier de données depuis sa chambre chez ses parents. Nous serons à Berlin. 14 millions de milliards de calculs par seconde, le nouveau super ordinateur français. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien, le Premier ministre a annoncé des mesures particulières. Vous le savez, en perspective d'un nouvel acte des Gilets jaunes. Interrogeons-nous sur le maintien de l'ordre. C'est quoi le maintien de l'ordre? Ça devrait être quoi? Les méthodes de maintien de l'ordre sont-elles adaptées aux manifestations différentes que sont celles des Gilets jaunes en ce moment? Quel usage de la force? Quelle technique devant la foule? Quand les débordements viennent des deux côtés, ça se passe au 01 45 24 7000.
Certains l'ont baptisé la cagnotte de la honte. La collecte ouverte sur internet pour soutenir le boxeur Christophe Détinger qui a frappé des gendarmes mobiles samedi à Paris. Cagnotte fermée donc ce midi, moins de 48 heures après sa mise en ligne. Bonsoir Sébastien Sabiron.
Bonsoir.
Succès très rapide, elle a récolté un peu plus de 120 000 euros et elle faisait l'objet de nombreuses critiques.
Oui, un véritable tollé qui a sans doute pesé dans la décision prise par la plateforme Litchi qui hébergeait la cagnotte de la clôturer en toute fin de matinée. Jusqu'ici, elle s'était contentée d'indiquer que la collecte respectait les conditions d'utilisation du site. Benjamin Bianchet, directeur général de Litchi.com.
Le financement de frais de justice est complètement autorisé. Par contre, nous avons décidé de clôturer les cagnottes, c'est-à-dire que, compte tenu des actes reprochés à Christophe Détinger, on veut, à travers cela, s'assurer que l'ensemble de la somme sera bien affectée à cette utilisation.
Et pour cela, Litchi s'engage à ce que les fonds collectés soient versés sur justificative directement sur le compte de l'avocat de Christophe Détinger. La plateforme précise enfin qu'une fois les démarches juridiques financées, l'argent restant sera remboursé aux contributeurs. Ils sont un peu plus de 8600. Mélanie Pochet en fait partie. Elle est serveuse près d'Amiens dans la Somme et elle a donné 5 euros.
La première vidéo que j'ai vue, c'est ce monsieur en train de taper le CRS qui est debout. Et bien ce geste-là, pour toutes les familles des blessés, c'est triste à dire, mais il nous a soulagés. On en a marre de se faire taper dessus, on en a marre de se faire insulter. Je suis pas pour la violence, mais les violences policières suffisent.
Sentiment partagé par tous les contributeurs que nous avons pu joindre, qui ne cautionnent pas, disent-ils, la violence, mais font bloc pour soutenir l'un des leurs. Litchi est une filiale du Crédit Mutuel Arkéa. Ce soir, le groupe Crédit Mutuel annonce avoir ouvert une enquête sur la légalité de cette cagnotte.
Parmi les commentaires politiques à cette cagnotte pour le boxeur, merci Sébastien Sabiron, le secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, qui ironise sur Twitter. Apparemment, cela rapporte de frapper un policier. Et face à la polémique, d'autres cagnottes sont lancées de soutien aux forces de l'ordre. Cette fois, dont une à l'initiative du président Les Républicains de la région PACA, Renaud Muselier, dont le montant grimpe lui aussi rapidement, près de 90 000 euros.
Je ne peux pas accepter de voir matin, midi et soir des images d'un pays saccagé. Quoi. La France, ce n'est pas une vaste ZAD. Et quand j'étais traumatisé quelque part par ces trois policiers qui ont dû fuir devant la horde sur les Champs-Élysées, je suis bouleversé par ces feux de voiture. Ces commerces qui ne peuvent plus travailler dans le centre-ville. Et alors là, cerise sur le gâteau, quand je vois qu'un individu se permet de frapper des policiers, de mettre des coups de pied dans la tête avec la volonté de les tuer, et qu'une cagnotte se met en place pour l'aider, alors là, mon sang n'a fait qu'un tour. Et j'ai décidé de faire cette cagnotte, qui est globalement un très gros succès. Alors où va aller cette cagnotte? C'est vraiment pour les familles policiers, gendarmes et pompiers. Ça part à l'amicale de la police nationale, qui est le comité d'entraide des actions sociales, et ça ira directement à la police nationale.
Renaud Muselier avec Marie-Audrey Laveau de France Bleu Vaucluse. La garde à vue du boxeur Christophe Détinger a été prolongée. Garde à vue aussi pour 41 personnes arrêtées ce matin dans l'Hérault pour les deux incendies en décembre au péage de Bessan sur l'A9. Édouard Philippe a annoncé hier soir une loi anti-casseurs et promis une mobilisation considérable des forces de l'ordre samedi prochain, pour protéger notamment les commerçants dont les vitrines font les frais des violences. Des commerçants qui n'ont pas rattrapé le retard pendant la semaine de Noël et qui espèrent se refaire avec les soldes qui débutent demain. Voici Johan Petiot, directeur général de l'Alliance du Commerce, qui représente près de 500 entreprises, surtout d'habillement. Il est au micro d'Hélène Philippe.
Là, on attend des soldes, que l'activité soit la meilleure possible pour justement qu'ils puissent reconstituer leur trésorerie. Car dès le mois de février, il va falloir qu'ils puissent acheter leurs fournitures pour les prochaines saisons et les prochaines collections. Donc c'est d'autant plus important qu'on puisse réussir ce mois de janvier. On a enregistré un mois de novembre dans le secteur de l'habillement avec une baisse de moins 6%, malgré un Black Friday qui avait redonné un peu de souffle au mois de novembre. On aura un mois de décembre qui sera lui aussi difficile. Donc on attend beaucoup des soldes. Les ventes privées ont déjà commencé très tôt cette année avec des taux de démarque relativement importants, jusqu'à moins 50% selon les acteurs, ce qui est déjà très élevé. Donc bien sûr, peut-être que les commerçants arriveront à rattraper un peu de chiffre d'affaires grâce aux soldes, mais ça va quand même avoir un impact majeur sur leurs marges avec des taux de démarque importants. Donc ça, c'est aussi un problème qu'il faudra certainement qu'on traite sur le long terme.
Le groupe Printemps accuse des pertes de 30% de son chiffre d'affaires chaque samedi depuis le 17 novembre. 58 000 salariés sont concernés par le chômage partiel. Bercy prolonge de 3 mois l'étalement des charges sociales et des échéances de paiement des impôts.
Carlos Ghosn se dit innocent.
Première apparition publique de l'ancien patron de Nissan depuis son arrestation il y a un mois et demi. Entendu à sa demande au tribunal de Tokyo, aminci, menottes au poignet, il se dit accusé à tort et détenu injustement. Mais il risque de rester en prison jusqu'à son procès, peut-être au moins 6 mois, alors qu'il s'est beaucoup investi pour Nissan, d'après son avocat Motonari Ochuru.
Dans son intervention, M. Ghosn a rappelé son action pour Nissan. Il a consacré 20 ans de sa vie à la renaissance de l'entreprise et à la construction de l'alliance avec Renault. C'est ainsi que Nissan est aujourd'hui l'un des piliers de l'économie japonaise. La réussite de Nissan, ainsi que ma famille, ce sont les deux plus grandes fiertés de ma vie.
L'avocat de Carlos Ghosn au micro d'Isabelle Raymond. Carlos Ghosn en prison peut-être encore plusieurs mois, alors qu'il est toujours PDG de Renault. Ça ne peut plus durer, selon Paul-Henri Leroy, fondateur du cabinet Proxinvest, spécialisé dans la gouvernance des petites entreprises.
Hors de question qu'au nom de la présomption d'innocence, on paralyse un groupe comme Renault. C'est aberrant. Que Renault n'ait pas les éléments pour mettre en cause le président et que ne souhaite pas l'accabler, on peut l'admettre. Mais par contre, le président de Renault n'est peut-être pas disponible, il est absolument urgent qu'il soit remplacé. Donc les administrateurs doivent prendre des décisions importantes qui sont de dire, devant l'incapacité d'intervenir et de diriger cette entreprise de la part de M. Ghosn, il est urgent qu'il soit remplacé. Il faut arrêter d'être les petits-enfants de M. Ghosn en France. Il y a papa est parti, qu'est-ce qu'on fait? On peut rien faire parce que papa n'est pas là. C'est aberrant. C'est-à-dire, papa n'a pas fait l'alliance. L'alliance est faite par beaucoup de gens de haute qualité qui ont travaillé pour M. Schneider, pour M. Ghosn, et qui avaient travaillé avant pour des gens remarquables comme M. Bess ou des gens comme ça. Donc il faut un peu passer à l'âge adulte.
Paul-Henri Leroy du cabinet Proxinvest qui représente les petits actionnaires avec Maxime Debs, la ministre du Travail Muriel Pénicaud, appelle au respect de la présomption d'innocence. Pas très claire la stratégie fiscale du gouvernement. Les 20% des Français les plus riches paieront-ils encore la taxe d'habitation sur leur résidence principale à la fin du quinquennat? Ou seront-ils exemptés de cet impôt comme les ménages les moins aisés? Difficile de savoir à la lumière des déclarations des derniers jours et des dernières heures. Bruno Le Maire assure ce matin que le gouvernement ira au bout de la réforme, comprendre la suppression de la taxe d'habitation pour tout le monde. Mais, dit ce soir l'Élysée, si les Français n'en veulent pas, nous sommes prêts à en discuter lors du grand débat. C'est un stylo que nous sommes nombreux à avoir utilisé, voire à utiliser encore, le Bic à 4 couleurs. Eh bien, l'usine de Vannes où il est produit est en grève depuis jeudi dernier. Les 33 salariés ne veulent pas de la délocalisation annoncée par le repreneur estonien à Marne-la-Vallée et en Tunisie. François Rivaud.
Et c'est pour empêcher ce scénario que les salariés de Bic, en plus d'être en grève, cherchent des soutiens tous azimuts auprès des députés Hervé Pellois et Paul Molac. Du sénateur Joël Labbé, le ministère de l'économie est contacté également, la préfecture du Morbihan. Car pour Emmanuel Beaufremez du syndicat CFDT Chimie et Énergie en Bretagne, eh bien il faut tout tenter pour espérer maintenir l'activité à Vannes ou alentour.
Le premier point qu'on recherche, nous, avec les élus et les salariés, c'est de trouver un bâtiment de façon à garder un produit Made in France, fabriqué en Bretagne et qui doit le rester. Délocalisé sur la Tunisie, c'est pas du tout acceptable.
Hervé Pellois, le député, a donc reçu une délégation à sa permanence. Il voudrait faire revenir la direction de Bic sur sa décision.
C'est assez inacceptable lorsque ces entreprises ont elles-mêmes bénéficié du CICE, d'un certain nombre de mesures qui leur permettaient de conforter l'emploi local ici.
Car ici, justement, les carnets de commandes sont pleins. Les salariés estiment qu'ils ont les compétences compétences et le savoir-faire. Ils veulent donc que la direction revienne rapidement les voir avant vendredi prochain, le jour fixé pour les prochaines discussions.
Ils ont eu plus de travail avec le prélèvement à la source. Les 40 000 fonctionnaires du fisc vont toucher une prime en février. 200 euros net, montant total de l'enveloppe, 8 millions d'euros.
C'est la première allocution solennelle de Donald Trump depuis le bureau ovale.
Un discours qui sera retransmis ce soir sur toutes les chaînes américaines au 18e jour du shutdown qui paralyse les administrations fédérales. Le président américain a besoin de 5 milliards de dollars pour construire son mur à la frontière mexicaine. Il avance des questions de sécurité. Bonsoir Grégory Philippe.
Bonsoir Sébastien.
Que va-t-il dire ce soir, Grégory ?
Alors, ce qui est quasi certain, c'est que Donald Trump va parler d'une crise de sécurité nationale à la frontière. Ça, son vice-président Mike Pence a fait la tournée des télévisions américaines ce matin pour délivrer ce message et puis dire que l'arrivée de ces migrants venus d'Amérique latine ou centrale provoque aussi une crise humanitaire. Ensuite, que peut annoncer Trump ? Trois possibilités. Un compromis avec les démocrates, ça paraît très peu probable. Le président veut son mur à 5 milliards de dollars. Les dirigeants des démocrates ne veulent pas en entendre parler et les négociations sont au point mort. Deuxième option, déclencher une procédure d'urgence exceptionnelle qui en gros permettrait de lancer les travaux du mur sans passer par l'accord du Congrès. C'est ce que font les présidents américains quand la sécurité du pays est en jeu. Mais si Trump fait cela, eh bien la décision sera sans aucun doute immédiatement contestée devant les tribunaux. Troisième piste, Trump n'a rien à mettre sur la table et ce message à la nation ce soir est en fait destiné à mettre la pression sur les démocrates. On est, Sébastien, dans une partie de bras de fer et d'ailleurs l'opposition, Chuck Schumer et Nancy Pelosi ont demandé à toutes les chaînes de télévision un temps de parole équivalent, environ 8 minutes, pour répondre au président dans la foulée de son allocution.
De Washington, nous allons à Berlin. Merci Grégory Philips. L'Allemagne a, semble-t-il, mis la main sur l'auteur de la cyberattaque révélée vendredi dernier. Les données confidentielles d'un millier de responsables politiques et diffusées, dont celle d'Angela Merkel. Bonsoir Ludovic Piétenu.
Bonsoir Sébastien.
Un jeune homme de 20 ans a été arrêté qui aurait agi parce qu'il était agacé.
Un étudiant qui vit chez ses parents au nord de Francfort, à la campagne, là où le réseau Internet a plutôt la réputation d'être très mauvais. Il a agi seul, sans formation particulière en informatique. C'est un autodidacte qui, depuis sa chambre, a fait trembler la classe politique allemande avec des révélations chaque jour au mois de décembre, à la façon d'un calendrier de l'Avent. C'est ici une tradition très prisée. Ce jeune étudiant était irrité, en effet, par certaines déclarations de ses responsables politiques. Cela donne une bien mauvaise image de la sécurité informatique en Allemagne, mais le ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, a tout à l'heure félicité et défendu son administration, tout en promettant une nouvelle loi.
Cette attaque nous donne l'occasion de voir ce qui peut être amélioré. C'est pourquoi je dis que nous devons regarder comment établir un système d'alerte précoce.
Berlin promet donc d'améliorer la lutte contre la cybercriminalité et d'ici là s'efforce d'effacer au plus vite les gigaoctets de données que le jeune pirate a laissé traîner sur la toile.
L'Allemagne, merci Ludovic Piétenu, où toute la classe politique condamne l'agression d'un député d'extrême droite hier soir à Brême, dans le nord du pays, frappé par trois personnes à coups de barres de bois. Les vols au départ de l'aéroport londonien Heathrow suspendus ce soir, le premier d'Europe en termes de passagers, à cause d'un drone qui aurait été aperçu trois semaines après la perturbation qui avait touché Gatwick.
À 19h presque 14, les victimes de l'amiante lancent une nouvelle offensive.
Pour obtenir un procès des responsables du scandale sanitaire et éviter un fiasco judiciaire, Sarah Guibaudot, certaines victimes déposeront d'ici fin février une citation directe collective.
Les premières plaintes ont été déposées il y a 23 ans et après bien des vicissitudes, les procédures ouvertes au pôle de santé publique de Paris sont en voie de s'achever par des non-lieux. D'où l'idée de certains plaignants de déposer une citation directe pour saisir le tribunal en apportant eux-mêmes les éléments de preuve. Michel Parigot, qui a été exposé sur le campus de Jussieu à Paris, y travaille depuis plus d'un an.
C'est bien la voie que l'on peut utiliser maintenant pour essayer de bousculer les choses. Il faut avoir, dans un délai raisonnable, un procès. Ça suffit.
Pierre Pluta, ancien des chantiers navals de Dunkerque, refuse aussi de renoncer pour ceux qui sont morts, dit-il, et pour les risques sanitaires à venir.
On nous dit souvent, mais vous êtes indemnisés, qu'est-ce que vous voulez plus ? Mais on n'en ramène pas la vie, on ne ramène pas la santé en payant. Il faut absolument que tous les responsables de cette catastrophe sanitaire rendent des comptes à la justice. Nous ne voulons pas que les générations futures subissent les mêmes problèmes que nous. C'est un encouragement aux empoisonneurs à continuer.
La nouvelle association des victimes de l'amiante et autres polluants vise les responsabilités nationales, les industriels, scientifiques ou responsables publics qui ont œuvré pour retarder l'interdiction de l'amiante dans les années 80-90. Mais on ne sait pas encore qui sera cité à comparaître.
Le diocèse de Lyon, au diapason de son archevêque, une ancienne responsable de la cellule d'écoute des victimes de pédophilie, nie avoir étouffé les agressions sexuelles. Elle parle d'agissements ignobles, comme le cardinal Barbarin hier et comme l'ancien directeur de cabinet du cardinal. Bonsoir Jean-Philippe Deniaud.
Bonsoir Sébastien.
La parole était aujourd'hui, Jean-Philippe, au parti civil.
Alexandre, François, Laurent et les autres, ils ont 39, 44, 50 ans. Laurent raconte ce prêtre charismatique qui l'emmenait à l'âge de 7 ans dans la salle des costumes de la paroisse pour des caresses et des baisers forcés. Alexandre raconte comment il a enfoui ses traumatismes jusqu'à se persuader que le curé était mort et comment tout a ressurgi 20 ans plus tard quand il a appris qu'il était toujours en poste auprès des enfants d'une autre paroisse. Tous expliquent qu'ils ont cru que le cardinal Barbarin allait reprendre les choses en main rapidement en 2014 quand l'affaire éclate progressivement, alors qu'il leur faudra encore attendre 9 mois pour voir le père Prénat être privé de tout ministère. Alexandre, François, Laurent, les autres sont émouvants, mais le tribunal ramène rapidement les débats sur la question juridique. Il y a quelque chose de difficile à comprendre, souligne la présidente. C'est tout de même paradoxal de reprocher à l'archevêque de n'avoir pas porté plainte, alors que vous ne l'avez pas fait vous-même. Pour moi, Barbarin était un guide, justifie Alexandre. J'ai été choqué qu'il ne fasse rien. Vos parents ont su ce qui vous est arrivé, rappelle Brigitte Vernet à François. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi leur reprocher aujourd'hui de n'avoir rien fait à l'époque ? Alexandre, François, Laurent, les autres sont un peu embarrassés, mais soulagés aussi d'avoir enfin pu témoigner dans une enceinte judiciaire. De toute façon, le tribunal se fera sa religion, conclut la présidente.
Jean-Philippe Deniaud en direct de Lyon, merci. C'est un outil qui va permettre à la France de devenir l'un des leaders mondiaux de l'intelligence artificielle. Un super ordinateur aussi puissant que 15 000 ordinateurs. Le contrat d'achat a été signé aujourd'hui entre le CNRS et le GENSI, le grand équipement national de calcul intensif. Une machine qui place la France, Sophie Bécherel, sur le podium européen.
La puissance de calcul, c'est une course sans fin. La France dispose actuellement de 18 machines que les scientifiques se partagent. Prévisions météo, études du climat, résistance des matériaux, explosions nucléaires, aux usages classiques est venue s'ajouter l'intelligence artificielle. Et de l'intelligence artificielle, il y en a un peu partout désormais. Soit les chercheurs ont besoin d'utiliser beaucoup de données, soit ils ont besoin de faire beaucoup de calculs, soit enfin les deux. La puissance n'en finit pas de grimper. Des gigaflops, il y a 30 ans, on est passé aux teraflops et à présent aux pétaflops. Avec ses 14 pétaflops, la nouvelle machine peut faire 14 millions de milliards de calculs à la seconde. Cela replace la France dans la course mondiale, explique Philippe Lavocat, PDG de GENSI.
C'est la première machine au niveau européen, machine convergée, parce que c'est une machine qui sert à la fois aussi bien le calcul intensif et le calcul haute performance traditionnel et le calcul en intelligence artificielle. Et on peut moduler ces partitions et donner la machine même intégralement à un utilisateur s'il en a besoin, une fois qu'il est sélectionné. Ça fait qu'elle est absolument unique pour l'instant et ce sera la première au niveau européen.
La France veut devenir un acteur majeur de l'intelligence artificielle. Elle se targue d'avoir de très bons chercheurs, mais pour qu'ils restent sur notre territoire, il faut mettre les outils à niveau. En Formule 1, un pilote, si bon soit-il, ne pourra remporter la course que s'il a l'une des meilleures voitures.
Lui n'a pas l'une des meilleures voitures, mais il est l'un des meilleurs pilotes. Sébastien Loeb remporte la deuxième étape du rallye Dakar au Pérou. L'Alsacien revient à la 5e place au général. La prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football aura lieu en Égypte. Le pays était le seul concurrent avec l'Afrique du Sud pour remplacer le Cameroun, qui a finalement renoncé à accueillir la compétition en juin et en juillet prochain. Eux s'envolent demain pour le mondial de hand qui débute vendredi en Allemagne et au Danemark. Les 17 bleus, choisis par le sélectionneur Didier Dinard. Pas de surprise dans cette liste, sauf que Nicolas Karabatic n'y figure pas. Le joueur parisien se remet d'une opération au pied. Il va manquer le début de la compétition. Mais l'équipe de France doit pouvoir se priver de l'arrière-gauche, d'après un autre joueur majeur, Luc Abad.
Moi je le répète tout le temps avec Michael Guigou, c'est les deux meilleurs joueurs avec qui j'ai eu l'occasion de jouer. Et dans une équipe, il apporte énormément. Et voilà, en ce moment Nicolas, il est toujours aussi bon et toujours aussi, aussi important. Et c'est clair que sans lui, ça va faire un peu de mal. Mais voilà, il y a d'autres joueurs qui viennent et qui ont envie de montrer, qui nous apportent aussi énormément. Donc il faut qu'on allie un peu toutes ces capacités, toutes ces fortes individualités pour recréer cette équipe.
Lucas Ballot avec Jean-Pierre Blimeau, Nicolas Karabatic pourrait intégrer l'effectif en demi-finale. Enfin, je vous donne la liste des 5 finalistes du premier prix de la BD France Inter Fnac. Liste dévoilée aujourd'hui. Merci Laetitia Gaillet. 5 branches de coton noir de Santé Cusor, L'âge d'or de Pedrosa et Moreil, Malater de Pierre-Henri Gaumont, Il faut flinguer Ramirez de Nicolas Petrimo. Et moi, ce que j'aime, c'est Les monstres d'Émile Ferris. Le prix sera remis mercredi prochain. Vous savez que les lecteurs avaient le choix parmi 20 albums et c'est le jury présidé par Antoine Decaune qui a tranché et donc donné cette liste de 5.
Eh bien, formidable. Merci beaucoup, Sébastien Paron.